Bonjour à tous et bienvenue à Horreur 360. Épisode 44 aujourd'hui, alors que je vais vous parler du film Creep, un de mes found footage préférés. Aujourd'hui, c'est aussi le début de la saison 3 du podcast, et là, je suis très content d'être de retour. Je vais vous accompagner tout au long de l'année 2024 pour vous jaser horreur. Et comme vous avez pu l'entendre lors de la finale de la saison 2, la saison 3 est officiellement la dernière. Je vais prendre un peu de temps un peu plus tard au courant de la saison pour vous expliquer pourquoi, mais oui, ce sera donc la dernière saison. Là, je suis extrêmement content de recommencer et j'ai vraiment hâte que vous voyez l'excellente programmation que je vous ai préparée pour la prochaine année. Là, ça fait presque 2 mois que je suis en pause de podcast. C'est une pause qui aurait été ultra bénéfique. Je me suis reposé en masse, j'ai pris du temps pour ma famille, j'ai gamé en masse et j'ai pu me rattraper dans certaines séries télé ou encore j'ai été capable d'éliminer plusieurs films d'horreur qui étaient sur ma watchlist depuis trop longtemps. Parlant de séries télé, en ce moment, je suis complètement hypnotisé, obsédé par la série Bates Motel. Je suis présentement à la fin de la saison 2. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cette série-là, c'est une série qui se déroule dans l'univers du film Psycho. Mais je suis pas mal certain que tout le monde parmi vous sait c'est quoi, parce que quand j'ai fait un post sur mes réseaux sociaux disant que j'étais en train d'écouter cette série-là, vous avez répondu en grand nombre et... c'est vraiment là à sens unique, dans le sens où tout le monde me dit que c'est de la bombe, ça fait partie de leur série préférée. Mais par contre, si je le mentionne, c'est que je me dis que peut-être qu'il y en a qui connaissent pas cette série-là ou qui se disent « Ah, écoute, ça m'intéresse, mais je suis pas trop sûr. » C'est de la bombe, ok? Ça fait longtemps que j'ai pas embarqué dans une série télé comme celle-là. Les personnages sont bons, l'écriture est écœurante. Et si tu aimes l'univers des films Psycho, c'est définitivement une série que tu vas adoré. Donc, si c'est pas déjà fait, je t'invite à courir voir ça le plus vite possible. C'est 5 saisons de 10 épisodes. C'est tout simplement hallucinant comment c'est bon. Là, je suis à job et j'ai juste envie de revenir à la maison pour écouter un autre épisode. Maintenant, j'aimerais ça vous parler aussi un peu de ce qui s'en vient pour la prochaine saison. Tout d'abord, j'ai pas fait beaucoup de changements en ce qui concerne le format du podcast. Je pense que la formule actuelle plaît à pas mal tout le monde, en commençant avec le confessionnal, segment que vous avez tous adoré si je me fie à ce que vous m'avez laissé savoir. Et là, si c'est la première fois que tu écoutes un épisode d'Horreur 360, ben premièrement, bienvenue parmi cette belle communauté. Et deuxièmement, ben je vais prendre 2 secondes pour toi pour t'expliquer c'est quoi le segment du confessionnal. Dans le fond, c'est un segment où, comme le nom l'indique, je vous fais une confession. Et là, moi, étant un fan d'horreur depuis ma tendre enfance, il y a énormément de classiques de l'horreur qui manquent à ma culture. Et là, je profite de ce segment-là pour visionner un classique et venir vous en faire la confession durant ce segment. J'ouvre pratiquement chaque épisode avec ce segment-là et normalement, ça dure de 5 à 10 minutes. Je vous donne une critique rapide du film, je vous donne ma note sur 10 et je vous dis si je le recommande ou non. En fait, ce segment-là, là, il est arrivé parce que, vous savez, Horreur 360, moi, je ne fais que des films de 2000 à aujourd'hui. Donc, en couvrant un classique de l'horreur, ben, ça me donnait l'occasion de pouvoir vous en jaser à vous. Et parce que, dans le fond, c'est pas un film que j'aurais sélectionné normalement pour faire un épisode complet dessus. Par la suite, le seul changement majeur, si je peux dire ça comme ça, c'est le segment commentaire qui deviendra la question du jour. Normalement, je vous posais une question sur mes réseaux sociaux et je lisais chacun de vos commentaires avant de vous envoyer dans la discussion du sujet principal de l'épisode avec mon ou mes invités. Mais là, pour la saison 3, ça va être la même chose dans le sens que je vais encore vous poser une question sur mes réseaux sociaux, sauf que cette fois-là, je vais poser la même question à mes invités et ensuite, je vais lire vos réponses en compagnie de mes invités. Vous aurez aussi l'occasion de poser une question aux invités quand je vais les recevoir. Ça sera à votre discrétion. J'aimerais ça aussi, dans la saison 3, réaliser plus d'entrevues comme celles que j'ai fait avec Julien Bernacchi et Patrick Sénécal. J'ai déjà quelques noms en tête que je vais approcher au courant de la saison. Et là, si ça fonctionne, vous ne serez pas déçus. Je peux déjà vous dire aussi que j'ai booké des noms que vous connaissez pour mon épisode 50 et pour mon épisode spécial Halloween en octobre. J'en dis pas plus pour l'instant, mais je suis pas mal sûr que vous allez triper. Et justement, concernant les invités, cette saison, il y en aura des nouveaux, mais ce sera surtout des habitués du podcast qui feront un retour. J'ai vraiment essayé de matcher le film en question avec l'invité pour que la discussion soit la plus enflammée et passionnée possible. Donc là, comme je viens de mentionner et comme vous savez tous, le concept d'Horreur 360 depuis le début, c'est que je couvre uniquement des films modernes, soit de 2000 à aujourd'hui. Mais là, comme c'est la dernière saison, je me suis dit que j'avais envie de briser les règles un peu. J'ai donc choisi deux films rétro durant la saison, un film de 1996 et un autre de 1983. Je vous laisse le plaisir d'essayer de deviner de quel film je parle. Sinon, il y a aussi trois épisodes de prévu où je vais laisser le choix du film à mes invités. Ça va me donner un challenge et ça va me donner l'occasion de peut-être couvrir un film que je n'aime pas ou que je vais découvrir pour la première fois. J'aime vraiment ça découvrir et surtout analyser certains films qui me sortent de ma zone de confort. Et finalement, je veux revenir un peu aux sources des premiers épisodes en donnant encore plus de fun facts, quand c'est possible évidemment. Là, aujourd'hui, malheureusement, j'ai un peu échoué parce que le film que je couvre, il n'y avait pas grand viande autour de l'os. Par contre, les fun facts que j'ai sont quand même assez cool. Je veux aussi introduire plus d'extraits de films à mes épisodes pour ajouter à l'ambiance de l'épisode et vous faire sentir comme si vous étiez dans le film avec moi. Tout ça pour vous dire merci à tous d'être là. Bienvenue à la saison 3 d'Horreur 360. Et pour commencer, j'ai choisi de faire un épisode solo, film sans invité, parce que c'est un film assez court. C'est un film que j'ai tellement eu un coup de cœur instantané dessus quand je l'ai vu pour la première fois. Je me suis dit, c'est sûr que j'ouvre une de mes saisons un jour avec ça. Puis, c'est pour la saison finale que ça se passe. Donc, on commence ça, cet épisode-là, avec le premier confessionnal de la saison. On s'en va là à l'instant. Bienvenue au confessionnal. Aujourd'hui, je vous parle de Pieces, film sorti en 1982 et réalisé par Juan Piquer Simón. Le film est disponible gratuitement sur Tubi. Et là, j'ai décidé de choisir Pieces parce que c'est un film que j'ai découvert en écoutant des podcasts. Je me suis rendu compte de l'importance de son statut pour tout bon fan d'horreur. Ça faisait longtemps que j'étais curieux de le voir. On m'avait dit que c'était un fun movie avec beaucoup de gore, et là, il m'en fallait pas plus pour lui accorder une chance. Pour les gens qui connaissent pas Pieces, je vais vous faire une brève description de qu'est-ce qu'on doit s'attendre quand on regarde ça. Si tu l'as jamais vu, c'est disponible sur Tubi. Fais pause et reviens tout de suite après. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en écoutant Pieces? De la décapitation à la chainsaw, un bain de sang, beaucoup trop de bad acting et des longueurs insupportables. Oui, c'est toutes des choses qu'on retrouve dans ce film-là. Ce que j'ai le plus aimé, c'est que justement, le gore est vraiment bien exécuté. Le côté creepy du tueur, là, c'est vraiment un bon dépravé. Il y a des passes tellement random, là, c'est pratiquement une comédie d'horreur, là, ce film-là, malgré qu'à certains moments, le film se prend au sérieux. À un moment donné, il y a une passe de kung-fu ultra random. Il y a aussi mon personnage préféré du film qui est un esti de mauvais acteur qui a toujours un sourcil dans les airs. Il est écœurant, il regarde toujours de côté un peu. Là, pour toutes les gens qui savent de quoi je parle, c'est sûr que vous avez un sourire en ce moment parce que ce gars-là est hilarant. Sinon, la trame sonore est vraiment cool. Il y a des esti de bons kills. J'en ai noté deux ici. Le bras, hein, les deux bras qui se font chop dans l'ascenseur, c'est très très réussi. Et sinon, le kill avec le couteau derrière la tête, ça m'a vraiment laissé sans mots. Je m'attendais pas à ce que ça soit d'autant bonne qualité le gore. T'sais, je m'attendais à quelque chose de gore, mais à ce point-là, jamais. La fin du film est, disons, spéciale. C'est, encore une fois, c'est vraiment un film où ce que tu regardes des acteurs pis t'es comme « Oh my God, que... » D'après moi, il n'y avait pas grande sélection au niveau du casting. Là, puis ils se sont vraiment fiés. Ils ont pris le premier qu'ils ont trouvé parce que ça vole pas haut côté acting. Ça, je vous le garantis. Et, c'est ça. Oui, évidemment, l'acting. Là, mais ce que j'ai moins aimé du film, c'est les longueurs. C'est un film d'1h25, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de longueurs. À certains moments, là, j'étais comme... Tu sais, je soupirais, là. Puis là, à un moment donné, pouf, ça vient comme te calmer avec un bon kill. Fait que ça, c'était cool. C'est vraiment mal mixé, là. Le son est cacane au bout, là. Ça avait aucun bon sens. Puis sinon, comme j'ai dit, là, les décisions stupides des personnages, il y a plein d'affaires qui font aucun calice de sens. C'est un film que j'aurais voulu adorer, qui malheureusement m'a laissé sur ma faim. J'ai été quand même déçu. Mais là, je peux quand même dire que maintenant, je suis content de l'avoir vu. Et c'est pour cette raison-là que je vais donner un maigre 5 sur 10. Est-ce que je le recommande? Certainement. Si tu ne l'as jamais vu, c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Pour le gore et pour la soundtrack. Pour vrai, là, c'est deux éléments qui pèsent quand même assez lourd dans la balance parce que ça vient un peu sauver le film. On s'entend que c'est un produit de son époque. Ça laissait d'être un giallo cheap un peu. Mais sinon, je pense que c'est un film qui peut être le fun à écouter en gang. Moi, je pense pas que je vais y redonner une chance. Peut-être. Faut jamais dire jamais. Mais écoutez, il y a tellement d'autres films que j'ai à regarder avant de redonner une chance à ce film-là. Donc, 5 sur 10 pour Pieces. C'est donc là-dessus que le segment du confessionnal va se terminer pour cette semaine. On va maintenant passer à la fiche technique de notre film d'aujourd'hui. Donc, Creep est un film d'horreur de style found footage sorti en 2014 et réalisé par Patrick Bryce. Il s'agit d'ailleurs de son premier film en carrière. Le film met en vedette Patrick Bryce dans le rôle de Aaron et Mark Duplass dans le rôle de Joseph. Puis là, qu'il y ait seulement deux acteurs pour un aussi bon film, c'est du génie, là. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que le film a été tourné en une semaine seulement avec un budget de plus ou moins 5 000. Mark Duplass, là, il a même dit que le film n'y a rien coûté, mais pour vous donner un chiffre, j'ai lu que ça tournait plus ou moins autour de 5 000. Là, on va s'en aller au fun fact parce que, comme je vous ai dit, durant ma description du film, j'ai pas énormément de fun facts, mais concernant la pré-production du film, j'en ai quand même. Puis pour les fans du film, je pense que les fun facts que je vais vous dire vont vraiment, vraiment vous intéresser. Donc c'est ça. Je vous donne un peu d'historique par rapport au film en commençant avec quelques fun facts sur la pré-prod du film. Mais là, avant de parler du film, je pense qu'il est important de savoir que Patrick Bryce et Mark Duplass sont des meilleurs amis dans la vraie vie et leur rencontre est vraiment inusitée. Parce que comme je vous dis, j'ai fait énormément de recherches, puis j'écoutais des entrevues à gauche, à droite, puis j'ai trouvé une entrevue où le gars qui les passait en entrevue leur a posé des questions sur leur rencontre. Les deux se sont connus alors que la copine de Patrick était la nanny, si on peut appeler ça comme ça, dans la maison de Mark. Elle s'occupait du ménage, des enfants, etc. Et là, les deux sont devenus de meilleurs amis et depuis ce temps-là, ils travaillent pas mal toujours ensemble sur leurs différents projets. C'est Mark qui a eu originalement l'idée du concept pour le film et au départ, il voulait que le film soit l'histoire d'un seul gars avec un cancer qui décide de se filmer dans sa chambre d'hôtel. Et finalement, selon ce qu'il a pu dire en entrevue, il est très heureux d'avoir changé le concept de son film. Pour Creep, il voulait surtout représenter leur vraie personnalité en poussant un peu à l'extrême. Dans le cas de Aaron, semble-t-il que c'est vraiment quelqu'un de gentil, empathique, et dans le cas de Mark, il dit en entrevue que lui, il est vraiment plus du style à devoir changer sa personnalité dans différentes situations dans le but d'obtenir ce qu'il veut. Il va même dire à la blague que c'est un peu un sociopathe par moment. Puis avec sa qualité d'acting, j'ai comme l'impression que... j'ai pas de misère à y croire, là. La version finale de Creep, là, le produit final qu'on a tous regardé sur Netflix, ben, ça a été inspiré par les expériences de Patrick Bryce sur Craigslist. Et il a été inspiré aussi par les films My Dinner with Andre, Misery et Fatal Attraction. Patrick Bryce et Mark Duplass y ont peaufiné l'histoire du film pendant qu'ils tournaient le film, ce qui a fait en sorte qu'ils sont arrivés avec plusieurs versions de chaque scène. Il y avait pratiquement 10 à 12 permutations pour chacune des scènes. Et là, normalement, là, dans un script de film, une page est égale à une minute de temps d'écran. Et là, ici, pour le cas du film, on parle d'un script qui contenait uniquement 5 pages. Eux, ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils ont uniquement écrit les grosses lignes, genre « Aaron se filme dans son char et raconte ce qu'il s'en va faire ». Dans le fond, le film est littéralement improvisé du début à la fin. Et là, malgré la simplicité du script, les gars ont passé près de 2 ans à travailler sur l'idée du concept. Donc, si on retourne au départ là, du projet... Au départ, ça s'appelait même pas Creep. Au départ, le film était censé s'appeler Peach Fuzz, le même nom que le masque de loup qui appartient au personnage de Joseph. mais ils ont choisi de renommer le film parce que la pertinence du titre vient assez tard dans l'intrigue du film, et là, ils voulaient pas que les téléspectateurs passent la première demi-heure à essayer de comprendre pourquoi le film s'appelle Peach Fuzz. Donc les deux hommes ont construit le film à partir d'une série de conversations qu'ils ont eues entre eux, et ils ont décidé d'appeler le film Creep pendant le tournage, ce qui leur a permis de filmer et de projeter des parties du film pour voir ce qui fonctionnerait ou non devant la caméra, et on s'entend que le choix du titre Creep, c'est un choix parfait. C'est ce qui va conclure les fun facts pour l'instant. Ben là, comme à l'habitude, hein, si c'est la première fois, comme j'ai dit tantôt, que t'écoutes le podcast, Horreur 360, c'est un spoiler podcast, donc si t'as jamais vu le film Creep, je t'invite à faire pause maintenant, va visionner ça sur Netflix et reviens tout de suite après parce que je m'apprête à spoiler le film de A à Z. On va donc y aller d'un petit music cue et on se lance dans le film. Et là, je vous avertis, il n'y a pas vraiment de soundtrack dans ce film-là, donc... Le seul music cue que j'ai réussi à trouver, c'est une chanson qu'on peut entendre dans le film. Donc, sans plus attendre, je vous fais entendre ça à l'instant et ensuite, on se lance dans le film. Hello, my name is Peach Fuzz. I might look like I eat you up. But I'm as friendly as a rabbit. And I'd make a very good friend. Peach Fuzz! I am here, and there's nothing to fear. Le film commence alors qu'on se retrouve en compagnie du personnage de Aaron. Il est en train de conduire et il se filme en racontant ce qu'il s'apprête à vivre. En gros, Aaron, c'est un vidéaste et il gagne sa vie en prenant des petits contrats à gauche et à droite. Il nous raconte qu'il s'en va rencontrer quelqu'un pour un contrat, justement. On apprend qu'il ne sait pas trop à quoi s'attendre, que dans l'annonce qu'il a trouvée, ça disait seulement que ça payait 1000 piastres cash pour la journée, simplement pour filmer. La maison où il doit se rendre est cachée en montagne, assez loin de tout. Et là, à première vue, on croirait un chalet. Aaron va monter pour aller cogner, personne ne va répondre. À noter que la maison se trouve en haut d'environ 150 marches, genre de maison où quand tu oublies de quoi en dedans, tu fais « Ah, fuck that », puis tu le laisses là. Bref, Aaron va tenter d'appeler la personne, sans réponse aussi. Il va quand même prendre sa caméra et filmer un peu les alentours. Il va même remarquer une hache qui est plantée dans un tronc d'arbre. On y reviendra un peu plus tard, clin d'œil, clin d'œil. Aaron va donc décider de retourner à son char en attendant la dite personne. On aura droit au premier de plusieurs jumpscares alors qu'un homme du nom de Joseph va arriver comme un sauvage dans la vie de Aaron en se présentant. Vous aurez compris que c'est bien l'homme que Aaron s'en vient rencontrer pour son contrat. Et déjà là, après 5 secondes de temps d'écran, on comprend à qui on a affaire, un nasty weirdo qui va nous mettre dans le doute tout au long du film. Le génie de Mark Duplass se fait déjà sentir. Et ce que j'aime surtout de cette scène-là, c'est quand Joseph va dire de façon très banale « oh my god, this is gonna be a good day ». Et là, quand on a vu le film déjà, là, on comprend qu'il sait très bien ce qu'il a l'intention de faire à Aaron. Je vous mets un extrait, là, c'est trop top-notch comme performance.
I'm assuming you're Aaron.
Yeah, I'm Aaron. Nice to meet you.
Joseph, oh my god. Oh my god. This is gonna be a good day.
Donc après cette sympathique présentation, Joseph va tout faire pour faire sentir Aaron à l'aise. Il va lui dire qu'il a l'air très gentil et il va lui demander tout de suite d'y faire un câlin. Et là, il va lui promettre de ne pas s'inquiéter. Il ne l'a pas fait venir pour filmer des affaires bizarres ou quoi que ce soit. On s'en reparle dans 5 minutes si vous voyez ce que je veux dire. Aaron va donc entrer dans la maison. Joseph va lui expliquer qu'ils sont présentement dans leur maison de vacances. Petit fun fact ici, il s'agit d'une des maisons de Mark Duplass. Je sais pas combien il y avait de maisons, mais bref, c'était sa maison à lui. Il va finir par lui dire pourquoi il veut se faire filmer. En gros, Joseph lui raconte que c'est un survivant du cancer, un cancer du foie pour être exact, qui s'est propagé jusqu'aux poumons. Malheureusement, il raconte aussi que depuis quelques temps, il y a eu de nouveaux symptômes qui lui ont amené un autre diagnostic de cancer, cette fois-ci une tumeur au cerveau de la taille d'une balle de baseball. Il veut filmer une vidéo pour son futur kid, qui est présentement dans le ventre de sa femme. Son kid s'appellera Buddy, un esti de nom de mal tant qu'à moi, Et là, il veut faire une vidéo où il expliquera qui il est pour son futur kid, pour qu'il ait un souvenir de lui et qu'il sache un peu comment son père était. Donc, jusque-là, Aaron est all good avec le concept de Joseph, je veux dire, qui ne le serait pas, tu sais. Et pour montrer qu'il est sérieux, Joseph va aller chercher le cash pour payer Aaron tout de suite et pour rendre ça naturel le plus possible, que ce soit une vidéo qui vient du cœur et non une job. Joseph va donc commencer ça bien straight en lui disant « Je vais aller prendre un bain, suis-moi ». Aaron, pas tant à l'aise, avec raison, va se faire raisonner par Joseph qui va lui dire « Inquiète-toi pas, là, c'est rien un bain. We're gonna go a lot deeper places than this. » On va explorer des zones pas mal plus profondes que ça, en gros. Joseph. Ça se pourrait-tu que tu fasses référence à un gros crisse de coup de hache dans une tête par hasard? On y reviendra. Et là, dans une scène ô combien bizarre, Joseph va s'adresser à Buddy, hein, son futur fils, à la caméra, en mimant de lui donner un bain comme s'il tenait son fils dans ses bras. Il est en pleine psychose, notre Joseph, là, la maladie mentale frappe fort ici. Mais honnêtement, juste pour la performance d'acteur de Mark Duplass puis toutes les faces qu'il fait, ça vaut le détour. Joseph va reprendre un peu son côté émotif en disant qu'il n'en revient pas qu'il lui reste seulement 2 ou 3 mois à vivre. Il va même dire que s'il voulait, il pourrait en finir drette là. Le malaise s'installe, il va se laisser caler au fond du bain et va ressortir en criant pour nous donner un autre gros jumpscare. Là, je connais bien du monde qui m'ont dit qu'ils aiment pas ce film-là à cause des jumpscares inutiles, mais quand on comprend l'état mental du personnage, là, tout prend son sens, puis je pense que les jumpscares sont legit du génie. Là. Donc après le bain, Joseph va proposer à Aaron d'aller prendre de l'air frais pour se remettre de cette frousse qu'il vient d'avoir, hein, parce qu'on s'entend qu'il a fait faire un esti jumpscare d'un gars qu'il connaît même pas, qui est tout nu dans un bain devant lui. Ça surprend, mettons. Donc, les gars vont décider d'aller prendre une marche. Joseph va dire à Aaron, il dit « Va te chercher un manteau un petit peu plus chaud dans un garde-robe en bas parce que tu vas voir, il fait froid dehors. » Aaron va donc accepter et c'est en fouillant dans un garde-robe qu'il va avoir la chienne de sa vie quand il va tomber nez à nez avec un gros masque de loup-garou. Joseph va arriver en vitesse et va seulement dire « Ah, lui, c'est Peach Fuzz, un masque que mon père a construit. » Joseph va le mettre sur sa tête et va se mettre à chanter une genre de comptine pour faire comprendre à Buddy que c'est un gentil loup. Et là, cette chanson-là, vous l'avez entendue il y a à peine 2-3 minutes. Les deux hommes vont ensuite prendre la route. Joseph veut montrer une trail à Aaron. Il lui dit que la trail où ils s'en vont, c'est une genre de fontaine de jouvence. Il la surnomme « The Miracle Water of the Art ». Et selon la légende, c'est un endroit où l'eau guérirait ceux qui ont cœur pur. Tu vois bien que le dude est un peu dans son monde de licorne, ben bon. À 1000$ la journée, tu fermes ta gueule puis tu suis. Et là, rendu à mi-chemin dans la trail, Joseph va dire qu'il a entendu un bruit et random, il va partir à courir dans le bois comme un perdu sans attendre Aaron. Aaron est genre « What the fuck? » Il va continuer son chemin seul jusqu'à ce que, sorti de nulle part, Joseph se mette à gueuler, ce qui va terroriser Aaron. Et là, à ce moment-là, je pense que Aaron se dit « Hey, j'ai déjà été payé, moi là, je calisse mon camp. » À ce moment-là dans le film, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, je comprends un peu les gens qui ont dû écouter le film pour la première fois sans trop savoir à quoi s'attendre. Pis là, qui ont dû se dire, hey non, mais quel sti de gros tas de marde ce film-là. On est seulement à 15 minutes dans le film et on a déjà 3 jumpscares qui peuvent sembler cheap à première vue. Cependant, ceux qui sont restés jusqu'au bout ont probablement été surpris et n'ont pas regretté leur choix parce que ce film-là, lors d'une première écoute, c'est insane comment c'est surprenant. Moi, c'est un coup de cœur instantané. Là. Bon, on continue dans l'histoire. Les gars vont poursuivre leur chemin et, dans une discussion, ils vont revenir au sujet de la hache qui était plantée dans un tronc d'arbre devant la maison que Aaron a vue au début du film. Joseph va lui demander « Y a-tu une petite partie de toi qui pensait que j'allais te tuer avec la hache quand tu l'as vue? » Aaron va dire « Ben, écoute, ben vu que je te connaissais pas, c'est sûr que j'y ai pensé, là. » C'est le rire de Mark Duplass suite à cette réponse-là qui est jouissif. Il va rire de bon cœur en voulant dire « Voyons donc, t'as pensé ça de moi. » Mais là, hein, on connaît tous la suite. Tout ça pour vous dire que les deux gars vont finir par trouver ce que Joseph parlait. Ils vont trouver la source d'eau où on peut apercevoir la forme d'un cœur formé par le temps et l'érosion. Joseph est certain d'avoir trouvé la source d'eau qui guérira son cancer. C'est donc là que les deux vont décider d'aller se tremper les pieds dans l'eau glacée. Après leur petite escapade, Joseph va les amener dans un restaurant de pancakes, de crêpes. Et là, première petite erreur de sa part, quand il va dire à voix haute « Ah, je me demande bien ce qu'il y a de bon ici », alors qu'il venait juste de dire à Aaron que ça fait des années qu'il va manger là, Aaron n'en fera pas de cas et ils vont continuer leur discussion. À tour de rôle, ils vont raconter à la caméra le moment où ils ont eu le plus honte dans leur vie, à la demande de Joseph. Aaron va raconter une anecdote où il se pissait souvent dans les culottes quand il était jeune, alors que Joseph, lui, va sortir son téléphone et va commencer à montrer des photos à Aaron. Sur les photos, on voit Aaron alors qu'il cognait à la porte au début du film. On comprend donc que Joseph a fait semblant de ne pas être là. C'est à ce moment-là qu'on se dit tous...
Warning! It's that weirdo again! It's that weirdo again!
Justement, Aaron va lui dire « Ouais, c'est weird un brin, mais regarde, c'est pas la fin du monde. » Après leur repas, les deux vont reprendre le chemin de la maison de Joseph. Et là, juste avant d'entrer dans la maison, Aaron va dire à Joseph « Écoute, moi, je pense que moi, je vais m'en aller chez nous, là, il fait noir puis j'ai une longue route à faire. » C'est aussi là qu'on a droit à un des plus beaux plans du film, soit le même plan que le poster du film, alors qu'on voit uniquement la silhouette de Joseph en contre-plongée dans les escaliers de la maison. Avec l'éclairage derrière lui, on voit pas son visage, c'est un plan qui est quand même intimidant puis qui rend le personnage de Joseph encore plus méchant. Joseph va insister pour que Aaron reste au moins le temps d'un verre de whisky, et après avoir essuyé plusieurs refus, Aaron va finalement accepter. Les deux vont donc s'asseoir à la table et vont commencer à discuter en prenant un verre. Aaron va avouer qu'il a d'abord pris le contrat pour l'argent. Joseph va dire qu'il aimerait bien donner de l'argent à Aaron parce que pour lui, l'argent, c'est pas un problème. Aaron va commencer à être mal à l'aise et va se dépêcher de finir son verre. Il va se lever pour partir et Joseph va lui dire au même moment qu'il lui a menti à propos de Peach Fuzz. C'est là qu'il va sortir un nasty d'histoire abracadabrante. Dans le fond, il va raconter qu'il doit lui aussi faire une confession à propos de quelque chose qu'il a fait dans le passé. Il va raconter qu'un jour, en fouillant dans son historique internet, parce que son internet allait mal, là, fait que lui il s'est dit « ben oui, la logique des choses, c'est d'aller regarder dans l'historique de l'internet, voir c'est quoi le problème. » Bref, ça fait pas de sens, mais... En faisant ses recherches dans l'historique, il a trouvé des sites de pornographie animale. Et là, il va dire « Aaron, moi, j'en écoute pas de pornographie animale. Ça veut donc dire que c'était ma femme qui regardait ça. » Par la suite, il a fait à croire à sa femme qu'il devait se rendre dans un voyage d'affaires. Mais en vérité, il n'était pas parti de nulle part. Et il avait décidé de se rendre à un magasin pour acheter le fameux masque de loup. Un soir, pendant que sa femme dormait, il dit qu'il est entré par infraction dans sa propre maison, il a attaché sa femme et il a eu une relation sexuelle limite animale avec sa femme. Il dit qu'il n'avait jamais vu sa femme aussi heureuse, il l'a laissé attacher après leur relation et il est reparti par la fenêtre. Le lendemain matin, quand il est revenu, il a demandé à sa femme comment sa soirée s'était passée et sa femme avait fait comme si de rien n'était et les deux ne se sont jamais reparlé de cette histoire-là. Il finit en disant « Aaron, j'ai violé ma propre femme. » Puis là, suite à cette histoire-là, Aaron va commencer à chercher ses clés parce qu'il veut vraiment partir. Joseph est persuadé qu'il lui a fait peur avec son histoire de viol. Probablement un peu. Joseph va même insister que Aaron devrait rester. Il va lui dire « Écoute, il est rendu tard, t'as bu de l'alcool. Si tu te fais pogner, tu vas péter la ballonne. » Va donc le convaincre que ça irait vraiment mieux pour chercher ses clés si il continue le lendemain matin. Finalement, Aaron va dire à Joseph « Ok, ouais, t'as raison, je vais rester, puis même qu'on devrait boire encore t'sais, pendant qu'on est là. » On peut clairement voir que Aaron tente de mettre de la drogue ou quelque chose dans le verre de Joseph dans le but qu'il s'endorme pour qu'il puisse sacrer son camp de là au plus vite. Les deux vont donc caler leur verre et, comme prévu, Joseph va finir par s'endormir en se couchant devant le foyer. Pendant ce temps-là, Aaron va fouiller dans les poches de Joseph pour voir s'il trouverait pas ses clés. Au même moment, le téléphone qui se trouvait dans la poche de Joseph va sonner. Et là, Aaron va s'en aller plus loin et va parler avec une femme qui s'appelle Angela, la soi-disante femme de Joseph. Et petit fun fact ici, la voix qu'on entend, c'est vraiment la vraie femme de Mark Duplass, donc la vraie femme de Joseph. Après une brève conversation, on va apprendre la vérité. Angela, ce n'est pas la femme de Joseph, ça se trouve à être sa sœur. Elle va aussi dire à Aaron qu'il devrait quitter la maison le plus vite possible, qu'il est sûrement en danger présentement. Et là, Asti, je vous le dis, j'ai eu le même feeling que lors du reveal dans le film de Visit, film que j'ai couvert lors de l'épisode 7 du podcast. Je trouve que c'est percutant, efficace, puis ce genre de reveal-là, ça me fait toujours lever le poil, tous les poils que j'ai sur le corps. Là. Après cet appel-là, Aaron va retourner voir Joseph, mais il ne sera plus couché devant le foyer. La panique s'installe et Aaron va le chercher dans la maison. Il va regarder partout et c'est là qu'on nous présente le jumpscare le plus efficace à en tracer une paire de shorts. Pendant que Aaron regarde sur le balcon dehors, on va juste entendre Joseph dire « Death ». Et au même moment, il apparaît dans le plan de caméra. Si simple, mais tellement bien fait, là. Joseph va simplement fixer Aaron en disant que la mort approche et qu'il n'y a rien qu'il puisse faire. Il va se mettre à pleurer en disant qu'il ne veut pas mourir et Aaron lui dit qu'il sait à propos de lui, qu'il a parlé avec sa femme, qui est sa sœur autrement dit. Il va dire qu'il veut juste avoir ses clés puis s'en aller. Mais là, encore une fois, Joseph agit de façon complètement inattendue quand il va simplement partir en courant dans la maison pour se cacher. Aaron va repartir à sa recherche et là, en descendant, il va tomber face à face avec Joseph qui s'est mis le masque de Peach Fuzz sur la tête et là, il se tient devant la porte comme pour l'empêcher de partir. Joseph va commencer à grogner et Aaron va lui hurler d'arrêter et va foncer sur Joseph. La caméra va couper et on va apercevoir un plan de caméra fixe où on voit Joseph amener trois sacs à vidange près d'un trou qui est en train de creuser. C'est à ce moment-là qu'on se dit « What the fuck? » Il a coupé Aaron en petits morceaux puis il reste encore genre 30 minutes au film. Eh ben non, le vidéo qu'on voit, c'est un vidéo que Joseph a envoyé à Aaron. On se retrouve maintenant dans la maison d'Aaron et il nous met en contexte en expliquant que suite à la soirée où il a foncé sur Joseph, Joseph s'est simplement enfui dans les bois. Et là, Aaron a dû faire remarquer sa voiture et il a pu retourner chez lui. Ce film-là est vraiment splitté en deux, puis c'est ce que j'aime aussi. Parce que je pense que le concept se serait essoufflé si tout le film s'était déroulé dans le genre de chalet. Là. Donc moi, je trouve que c'est du génie que là maintenant, on se transporte dans la maison d'Aaron pour que justement le harcèlement là, de Joseph continue. Sauf que là, comme je viens de dire, il vient de recevoir une vidéo assez étrange de la part de Joseph. Ce qui veut donc dire qu'il connaît son adresse, c'est fucked up et assez freakant, sachant que c'est une situation qui pourrait vraiment arriver dans la réalité. Anyway, Aaron va simplement prendre le DVD qu'il a reçu, il va le crisser aux poubelles et va prétendre que rien de tout ça n'est jamais arrivé. Sauf que là, le lendemain, il va recevoir un autre colis, une grosse boîte où on peut lire que c'est fragile. Disons qu'il a une petite idée de qui le colis peut bien provenir. Aaron est un peu hésitant, mais il va finir par l'ouvrir. À l'intérieur de la boîte, il va y trouver un couteau de cuisine et un DVD. Il va donc s'installer devant la TV. Sans surprise, le DVD vient de Joseph et dans la vidéo, on peut l'entendre s'excuser concernant le dernier vidéo qu'il lui a envoyé. Il va lui dire qu'il n'avait pas toute sa tête étant donné que Aaron l'avait drogué au Benadryl. Il va aussi lui annoncer que la boîte contient un autre cadeau. Aaron va donc faire pause et aller fouiller dans le fond de la boîte. C'est là qu'il va trouver un toutou de loup. Puis là, j'aime vraiment la métaphore qu'il va évoquer quand il va un peu se comparer au loup. En disant que les loups sont des animaux qui aiment énormément, mais ne savent pas comment l'exprimer, et qui vont souvent être violents et vont aller jusqu'à tuer ceux qu'ils aiment. La face de Aaron, quand il entend ça, là, c'est de l'or en barre, honnêtement. Mais quel hostie de weirdo, ce Joseph! Joseph va lui suggérer de prendre le couteau et de rechercher son inner wolf, son loup intérieur, en insinuant qu'il devrait ouvrir le toutou parce qu'il a caché quelque chose de beau en dedans. Et là, je dis beau, mais ce que Aaron va trouver à l'intérieur, c'est un collier de style best friend, là, en forme de cœur, avec une photo de Aaron et une de Joseph, avec une petite écriture où on peut lire J plus A forever. C'est là qu'il va décider d'appeler la police, mais évidemment, la police ne pourra rien faire parce qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour l'accuser de quoi que ce soit, et au final, son appel ne sera même pas pris au sérieux. On va se transporter à la nuit. Aaron va prendre sa caméra pour raconter qu'il fait toujours le même cauchemar qui inclut Joseph. Puis c'est au même moment qu'il va entendre un hostie de gros bang et va réagir de la façon la plus authentique ever, là. Clairement, c'est une réaction sincère. Puis j'imagine qu'il ne devait même pas savoir quand le bang allait avoir lieu. Aaron va se lever et va simplement dire « Ok, lights, lights, lights » dans le genre « J'ouvre toutes les hosties de lumière ». Il va faire le tour pensant voir Joseph, mais ne trouvera rien. Sauf que là, pendant qu'il cherche, sa caméra reste allumée et pointe vers la porte d'entrée. C'est là qu'on peut voir Joseph qui est planté devant la porte. Aaron ne s'en rendra jamais compte. Et je dois dire que cette scène-là est réussie sur toute la ligne. C'est horrifique, c'est bien écrit et je pense même qu'on aurait pu faire un court-métrage d'horreur avec cette scène-là uniquement. Rien qu'en vous le décrivant présentement, j'ai l'image en tête, puis j'en ai des frissons. C'est vraiment, vraiment creepy. Aaron va finir par sortir, faire le tour de sa maison pour être certain que Joseph n'est pas caché. Il va remarquer que ses poubelles sont tombées et va penser que c'est les ratons laveurs qui ont fait ça. La scène va couper et on se retrouve sur un plan de Aaron qui dort. La caméra est toujours allumée. Sauf que là, on peut voir que Joseph est à l'intérieur de la maison. Il manipule la caméra. Il va commencer à filmer Aaron de long en large avant de redéposer la caméra. Le fucking creep va même prendre le temps de couper une mèche de cheveux à Aaron avec une paire de ciseaux. Là, ça ira pas plus loin et la scène va encore une fois changer. Cette fois-là, on se retrouve au lendemain matin. Aaron raconte qu'il ne s'est rien passé de spécial la nuit dernière, à l'exception de son moustiquaire de chambre qui a été coupé à seulement quelques centimètres de son oreiller. Et là, un nouveau DVD a été déposé et on peut lire dessus que c'est écrit « My last video », mon dernier vidéo. Dans cette vidéo-là, on peut retrouver Joseph qui va montrer à Aaron qu'il a trouvé le DVD qu'il lui avait envoyé dans le fond de ses poubelles. Il va dire « Jusque-là, je peux passer par-dessus ». Mais de trouver le collier que je t'ai donné, celle-là, je la trouve plus dure à avaler, puis ça me fait mal. Il va rajouter que suite à ça, il y a eu des pensées noires sur ce qu'il aimerait lui faire subir. Il va aussi dire qu'il n'a pas aimé penser à ça, que ça lui a fait réaliser plusieurs choses. Premièrement, que Aaron avait raison de penser de lui que c'était un homme troublé. J'ajouterais même un asti de weirdo psychopathe, là, mais ça, c'est ma petite touche. Il va finir son vidéo en lui demandant de lui donner une dernière chance de s'expliquer sur ses vraies intentions. Il va donc lui donner rendez-vous dans un endroit public, sur un banc, dans un parc, près d'un lac. Et là, dans cette vidéo-là, on peut presque dire que Joseph est crédible parce qu'il va raconter que c'est un homme qui se sent extrêmement seul et qui veut juste avoir un ami. Encore une fois, Mark Duplass fait de la magie. C'est ce qui va nous amener à la scène finale. Donc, le lendemain matin, Aaron va décider d'aller à la rencontre de Joseph. Il va s'être installé une caméra au loin pour filmer le tout au cas où ça ne virerait pas bien. Aaron va aller s'asseoir sur le banc de parc en question. Ça va durer de longues secondes avant qu'on finisse par apercevoir Joseph qui va arriver derrière lui tranquillement sans faire de bruit. À ce moment-là dans le film, à notre première écoute, on se demande si c'est une mauvaise blague. On n'est encore pas sûr de ça va être quoi le prochain move là, de Joseph. Bref, il va le fixer un bon 20-30 secondes avant de sortir son masque de Peach Fuzz et de décider de l'enfiler. Suite à ça, il va sortir une hache de son manteau et c'est en prenant le plus gros des élans qu'il va aller planter la hache dans la tête de Aaron avec un coup d'une telle violence gratuite. J'avais la gueule à terre parce que le film ne s'en allait pas dans cette direction-là. On sait que c'est un psychopathe, mais que ce soit un coup aussi brutal, le son que ça fait quand la hache pénètre son crâne, c'est troublant. C'est le mot que je pourrais dire, là, c'est troublant. Il n'y a aucun sang qui gicle. Ça a l'air réel. J'ai l'impression de regarder un snuff vidéo d'un vrai meurtre. C'est tellement bien fait pour un film à un aussi petit budget. Là. On ne s'attend pas à ça. Puis c'est tellement, mais tellement pas à cette fin-là que je m'attendais à mon premier visionnement. Parce qu'un peu comme Aaron, là, on prend Joseph en pitié. Puis on a envie de lui laisser une chance tellement il est convaincant dans sa tristesse et sa solitude. Ben non, hostie, je pense que moi aussi, je me serais fait stabber la tête à grands coups de hache. Suite au meurtre, on peut voir que Joseph est en train de visionner le tape du meurtre qu'il vient de commettre, donc est allé prendre la caméra que Aaron avait cachée. On le voit se parler à lui-même et dire qu'il trouve que la vidéo est meilleure à chaque fois qu'il la regarde. Il va aussi dire ce qu'on a tous pensé en regardant la scène. Il va dire « Mais pourquoi tu t'es jamais tourné pour voir si je m'en venais, Aaron? » Et là, il va dire « Je le sais pourquoi tu t'es jamais tourné. C'est parce que t'es la meilleure personne qui ait jamais existé, Aaron. Peu importe ce que je t'ai fait, tu croyais que j'étais une bonne personne et que jamais je te ferais de mal. » Il va finir ça en disant « C'est pour ça que tu seras toujours mon préféré parmi tous ceux que j'ai tués. » Et c'est aussi là qu'on a droit au jumpscare, le plus terrifiant de toute la calisse de film. C'est un jumpscare qui te met en beau, là. Je m'explique. Joseph parle tranquillement, tandis qu'on voit encore la scène du meurtre de Aaron. Et là, sorti de nulle part, Joseph vient gueuler comme un perdu devant la caméra. C'est complètement réussi, mais tout autant dévastateur pour n'importe quel cardiaque qui croise le chemin de cette scène-là. Le film se finit sur une scène où on voit Joseph, qui est maintenant devenu Bill. On le voit parler au téléphone avec quelqu'un et on l'entend expliquer qu'il y a un travail très simple à faire pour cette personne-là. Il va lui dire « T'as seulement besoin d'une caméra et de 8 heures de ton temps. » C'est aussi là qu'il va déposer le DVD de Aaron dans un armoire rempli de VHS et de DVD qui ont tous des titres uniques. On comprend qu'il s'agit des films de chacune de ses victimes. Petit fun fact ici, il y en a 57 exactement. Et c'est là-dessus que le film va se terminer. Mais avant qu'on passe à mon appréciation et ma note, je veux vous faire part qu'il y a deux autres fins alternatives que j'ai pu trouver sur YouTube. La première étant que on voit Joseph sur le banc dans le parc et Aaron installe sa caméra pour finalement aller le rejoindre sur le banc. Après quelques secondes, le film se finit sans aucun incident. Heureusement, ils n'ont pas choisi cette scène-là. Et la deuxième fin... on a un plan du banc en plein été. Aaron se dirige vers le banc, il s'assoit et c'est pratiquement la même fin qu'on voit dans le film, sauf que le film coupe avant que Joseph ne donne son coup de hache dans sa tête. Donc, je sais pas pourquoi ils ont tourné ces scènes-là, puisqu'ils apportent vraiment rien de plus au film. Mais bon, j'imagine qu'ils voulaient se donner des portes de sortie. Au final, la fin qu'on voit, c'est la fin parfaite, c'est surprenant, c'est brutal, c'est violent. J'ai décidé de donner un 8 sur 10 à Creep. 8 sur 10, vous allez me dire, mais t'es-tu malade, 8 sur 10? Je vais quand même expliquer pourquoi je donne cette note-là. Pour moi, c'est comment ils ont réussi à faire un aussi bon film en improvisant pratiquement tout le long et en étant seulement deux acteurs. Leur crédibilité rend le film incroyablement bon à mes yeux. Ce film-là est officiellement dans mon top 3 de found footage en compagnie de Wreck et de As Above, So Below. La seule chose négative que j'ai à dire sur ce film-là, c'est que c'est un film qu'il faut voir une à deux fois maximum, puis le deuxième visionnement, il faut le voir quand même plusieurs années après le premier. Là. Et là, en prenant mes notes, j'en étais à ma troisième écoute, et clairement, le feeling de surprise n'est pas le même, naturellement. Mais si vous avez jamais vu ce film-là, oh my god, lancez-vous à pieds joints dans ce petit bijou. C'est un film que je recommande définitivement. Vous allez tomber en amour avec la performance de Mark Duplass. Il y a une suite qui s'appelle Creep 2. C'est aussi un bon film, mais ça n'a rien à voir avec le premier, si vous voulez mon avis. Par contre, si vous êtes curieux, les deux films sont accessibles sur Netflix. C'est donc là-dessus que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à venir joindre mes réseaux sociaux Horreur360 sur Facebook et Instagram. On est tout près du 1000 followers sur la page Facebook, donc si ce n'est pas fait, viens liker cette page-là. C'est là-dessus que je poste tout mon contenu, puis c'est là-dessus que j'annonce aussi mes prochains épisodes. Parlant de ça, au prochain épisode, je reçois mes premiers invités de la saison. On va parler d'un film assez troublant à regarder pour certains, alors que je m'attaque à l'excellent film Martyr, sorti en 2008. Pour l'occasion, j'accueillerai mes deux amis Steve et Stéphane, les deux commis du super club Vidéo Gore qui se joindront à moi pour analyser ce film-là. Donc d'ici là, je vous dis merci d'écouter ce que je fais et à bientôt tout le monde.